Vivre heureux, vivons Cotier. Une émission produite et réalisée par Christophe Médici.
Chers amis, bonjour. Quelle chance, quelle joie de vous retrouver en ce samedi midi pour un nouveau numéro de Pour vivre heureux, vivons Cotier. Alors, en ces moments de crise du couple, de crise de la relation amoureuse, et pourtant où il y a autant un désir de couple, on a eu envie de traiter un thème qui nous concerne toutes et tous. Et on a envie de savoir pourquoi existe-t-il autant de conflits de couple. Et pour répondre à ces questions, pour vous éclairer, on a une grande spécialiste du couple, une love coach, une coach en amour, Christelle Verfailly, bonjour.
Oui, bonjour.
Et puis pour m'accompagner dans cette co-animation d'émission, j'ai toujours ma fidèle Irène Cazenave, bonjour Irène.
Bonjour.
Conflit de couple à la réalisation, Julien est là évidemment, vous savez que c'est une émission interactive, vous pouvez appeler la radio et l'émission, hein. On est là pour vous coacher pendant toute l'émission, on est là pour ça en tant qu'expert, c'est pas si simple, et c'est pas parce qu'on est expert qu'on peut pas nous aussi vivre des conflits dans nos relations, donc appelez-nous, même si on n'a pas la science infuse, je vous promets, on va vous aider. Rebonjour Christelle.
Bonjour Christophe.
Pour les auditeurs de l'émission de Pour vivre heureux, ils vont coacher. Pouvez-vous vous présenter? Qui êtes-vous Christelle?
Oui, tout à fait. Donc moi, je suis coach en intelligence émotionnelle et amoureuse, la fondatrice de Dame de Cœur, qui est un cabinet de coaching en amour. Donc j'accompagne les célibataires à s'ouvrir à l'amour et puis les couples qui ont des difficultés, qui sont en train de vivre une crise ou des personnes qui sont dans des situations très compliquées en amour.
Dame de Cœur, c'est très joli.
Oui,
évidemment, on voit tout de suite la carte.
Oui.
Et c'est vrai qu'en amour, on joue des cartes. Hein. Mais c'est vraiment, on pense à la Dame de Cœur. Irène, c'est une très belle image, Dame de Cœur, Irène Cazenave.
Oui, c'est une très belle image. Alors moi, j'avais une question, c'est quelle est la différence entre le coaching de couple, coaching amoureux et la thérapie de couple?
Christelle Verfailly.
Oui, tout à fait. Alors dans le coaching, moi, pour moi, la plus grande différence, c'est qu'on va vraiment mettre dans l'action. Hein, c'est-à-dire que après chaque séance, les couples repartent avec une feuille de route. Et puis surtout, moi, je les accompagne dans un objectif très précis. C'est-à-dire que dès le démarrage du coaching, on va mettre en place un objectif et on vérifiera à la fin du coaching que celui-ci est atteint. Donc ça, c'est quand même la différence.
Donc on est plus sur le comment que sur le pourquoi.
On est sur le comment.
On est sur le comment. On est sur le comment avec une trousse à outils. Vous voyez, chers amis auditeurs, le coaching, je lisais des choses sur cette remise en cause en ce moment depuis pas mal de mois et d'années, même de la psychanalyse qui dit pendant 5 ans, 7 ans. C'est vrai, Christelle, hein, le coaching, c'est très pratico-pratique. Ça donne une trousse à outils. Qu'en pensez-vous, Christelle Verfailly?
Et surtout, c'est sur un temps court.
Et c'est sur un temps court.
C'est sur quelques séances, c'est 8 à 10 séances.
C'est ça. Alors, comment en êtes-vous venu là? Je pense que vos premiers amours, c'était plutôt un coaching d'entreprise, n'est-ce pas?
Tout à fait. Donc, j'ai accompagné en entreprise, en coaching, et puis aussi à la réorientation professionnelle par le bilan de compétences. Et puis, je me suis rendu compte que dans les bilans de compétences, souvent, les gens me parlaient d'amour.
Qui ne parle pas d'amour? C'est la grande affaire de la vie, n'est-ce pas? Hein, comme le disait Stendhal, la grande affaire de l'amour, de la vie, c'est l'amour. Stendhal qui avait écrit ce magnifique livre que tout le monde doit lire, De l'amour, vraiment, c'est magnifique, dans lequel il parle de la cristallisation. Alors, vous êtes donc les deux maintenant, mais plutôt coach en amour, comme coach en intelligence émotionnelle, comme vous l'avez dit. Et votre formation à la base, alors, c'était avec qui en coach en amour?
Alors, j'ai fait ma formation chez Love Intelligence, donc par Florence Escaravage à Paris.
D'accord. Et avec elle, vous avez appris...
Ouais. On apprend toutes les étapes d'un coaching en amour. Et puis surtout, il y a beaucoup de théories. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est qu'être amoureux? Les étapes du couple. Oui, il y a quand même des théories de l'amour.
Ouais, après, chers amis auditeurs, on peut dire la vérité. Bien sûr, on plaisante là, hein, Christelle. Mais l'amour n'est pas une science exacte. Si ça l'était, il y aurait un livre collection Marabout en édition « Comment réussir sa vie amoureuse ». Or, on va voir avec vos questions, et je suis sûr que vous allez être très nombreux à nous les poser, que il y a beaucoup de sujets de conflits dans un couple. D'ailleurs, il y a 5 familles de conflits de couple. On les verra au cours de l'émission. Je vous promets de vous les dire. Christelle est une grande experte, donc elle vous éclairera aussi. Irène, vous, en tant qu'hypnothérapeute, bah, vous nous apporterez l'axe de la thérapeute. Vous avez des gens qui parlent de leurs problèmes amoureux, n'est-ce
bien
pas?
Bien évidemment. Mais évidemment, c'est une question qui reste centrale pour tout le monde, l'amour. Alors souvent en thérapie, c'est l'amour de soi, mais bien évidemment, ça vient interférer, le manque d'amour de soi, ça vient interférer dans la relation de couple.
Évidemment, qu'est-ce que vous en pensez, Christelle?
Le problème
d'estime de soi est très lié à l'amour, quoi.
Oui, alors par contre, moi je me bats un petit peu pour cette idée qu'il faut d'abord s'aimer soi-même avant de rencontrer, parce que c'est pas vrai.
Non, et puis
je pense qu'on
guérit
aussi dans le lien.
Ouais,
et qu'on guérit ses blessures dans le
lien. On peut. Ça dépend si on tombe, moi qui ai écrit savoir gérer un conjoint toxique, ça dépend sur quel conjoint on tombe.
Évidemment, là je parle sur un couple classique.
On peut tomber sur un couple qui soit un couple, effectivement, qui nous permet de grandir ensemble et de guérir même ensemble, grandir et guérir. Puis un couple malheureusement toxique. Et là, parfois, justement, le problème, c'est quand les gens ont une basse estime d'eux-mêmes, parfois ils ont une propension à rester très longtemps dans une relation toxique. Irène Cazenave.
Certes, mais il y a aussi des couples qui sont réparateurs
et réparateurs de
l'amour de soi. Complètement.
On va passer une page musicale. Vous êtes très nombreux à vouloir poser des questions à Christelle Verfailly. On va tenter de prendre tout le monde. N'hésitez pas, vous connaissez le 09, le numéro de Dynamique Radio. Appelez-nous.
Que j'ai plus grand chose à t'apporter, que ma vie bouffe un peu ta vie, que c'est la guerre, toi contre moi, chien contre chat, chaud contre froid, que ça devient l'enfer, notre paradis. Mais si tu pars, moi je suis plus rien, c'est tout mon cœur que tu retiens dans ton corps qui veut plus s'ouvrir. Tu peux pas t'en aller comme ça, je suis comme un vieux si tu t'en vas, qui n'a plus rien à découvrir. Reste avec moi. Comment me faire pardonner? J'ai tant d'amour à te donner que j'ai mal d'avoir tout raté. Te laisse pas fermer, laisse-moi t'aimer. Peut-être, peut-être que je vais y arriver plus fort que t'en as jamais rêvé. Laisse-moi essayer, t'en vas pas, je ferai tout ce que tu voudras, je ferai mieux que de mon mieux. Tu peux pas t'en aller comme ça, je suis comme un fou si tu t'en vas. Fais-moi demi-tour.
Francis Lalanne qui nous dit évidemment qu'il faut toujours parfois tenter que l'autre reste ou parte. Vous êtes très nombreux à appeler. On a un premier radio coaché. Premier radio coaché.
Christophe Médici, radio coaché.
Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir sur les ondes de Dynamique Radio dans Pour Vivre Heureux, Yvon Coaché. Vous savez que notre invité, c'est Christelle Verfailly.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez envie de nous poser et de lui poser comme question au sujet des conflits dans le couple?
Quelque chose que j'ai eu l'occasion de vivre plusieurs années de suite au moment de Noël.
Ah.
Mais je précise un tout petit peu, moi je suis un couple recomposé.
Oui.
Et donc le sujet de l'éducation des enfants, à chaque fois un peu compliqué, complexe sur différents aspects. Et comme je suis un couple recomposé, on se retrouve avec 4 acteurs différents, plusieurs enfants, des budgets différents et beaucoup de discussions à ce sujet dans mon couple.
Alors, des discussions lors de Noël par rapport aux cadeaux ou par rapport différentes choses de cet ordre-là. Alors, on va voir ce que Christelle va vous dire sur cette question-là. Moi, en tant que formateur et psychosociologue, et puis en travaillant avec Brigitte Lahaye depuis 2009, on a vu tellement de choses. C'est sûr que là, vous nous parlez de rôles un peu différents. C'est-à-dire que soit il y a le rôle d'amant, enfin d'amoureux et d'amoureuse, vous voyez ce que je veux dire. Et puis après, il y a le rôle de parent, vous voyez, Sylvie. Et c'est vrai qu'on joue plusieurs rôles dans une vie. Et c'est vrai que ça vient interférer dans notre relation amoureuse, le fait qu'on soit parent. Et là, une des 5 familles des causes de conflits de couple, mais de conflits au sens large dans la vie, hein, vous savez, il y a les conflits de besoins, il y a les conflits de valeurs, il y a les conflits de rôles, il y a des conflits d'intérêts. Bon, là, ce serait plutôt un conflit aussi de, peut-être de valeurs. Il y en a un qui veut faire plus de cadeaux, moins de cadeaux.
C'est ça.
Christelle,
c'est
vrai que ça peut être un sujet à scène de ménage. Christelle Fervailly.
Oui, bonjour Sylvie.
Bonjour Christelle.
Vous dites que ça crée des conflits, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez me donner un exemple?
Bien sûr. Par exemple, une année à Noël, mon conjoint a fait des cadeaux qui, moi, dans mon monde de valeurs, sont exorbitants. Et ça m'a mis la pression pour les cadeaux à faire à mes propres enfants. Et de ce fait, même les enfants vivaient pas forcément bien les différences de traitement. Moi, je défendais une forme de simplicité et je me retrouvais avec des Macs à 1 500 €. Et c'était parfois de la contrariété un peu sous-jacente. On disait pas parce que c'était censé être un moment festif, mais c'est quand même c'était un peu lourdingue.
Christelle.
Et comment vous communiquiez sur ce sujet avec votre compagnon?
Eh ben justement, c'est ce que disait Christophe tout à l'heure, le fait de mélanger la relation amoureuse et le rôle de parent, c'est pas facile. Surtout que c'était dans les débuts de la refonte du couple, donc j'osais pas forcément bien communiquer clairement, et c'est vrai.
Vous marchiez sur des œufs, c'est lui ?
Bon, on peut dire ça, parce que déjà les enfants étaient là, parce que on était un peu devant le fait accompli. Il y avait de la démonstration et j'osais pas dire.
Irène, qu'est-ce que vous allez en dire à Sylvie ?
Il y a vraiment cette question aussi de pas oser dire et de pas oser se positionner qui vient interférer et où il y a quelque chose qui se passe où on n'en a pas discuté en amont. Donc l'autre ne sait pas non plus que ça peut venir interférer. Il y a vraiment cette question d'oser aussi poser que c'est questionnant parce que sinon il y a des choses comme ça qui sont dans le non-dit, parce qu'on n'ose pas, parce que c'est le début, parce qu'il y a ce conflit entre couple conjugal et couple parental, et d'autant qu'on est parents peut-être d'enfants qui sont nés avant. Donc il y a toutes ces questions-là qui font que l'absence de communication, elle vient à un moment se scléroser. Il y a un conflit qui se développe parce que la communication n'a pas été là. A pas été soit possible, soit ensuite, quand c'était possible, pas osé, en amont.
Christelle Verfailly, qu'est-ce que vous avez à dire?
Tout à fait, Irène. Hein, la communication empathique, ouverte, c'est vraiment nécessaire pour gérer un conflit. Et notamment quand ça parle de soi, parce que là, ce que j'entends, Sylvie, c'est que ça parle de vos valeurs, de simplicité avec vos enfants, et que c'est important que lui connaisse vos valeurs, parce que peut-être que lui n'a pas les mêmes valeurs. Donc c'est important d'échanger sur ces sujets-là.
Ça vous fait écho comment tout ça, Sylvie ?
Ça me fait ça me fait penser que grosso modo, finalement, ce qui me plaît chez l'autre, c'est aussi sa propre enfance et le fait qu'il ait manqué, donc il a besoin d'être généreux, et que en même temps, moi, dans mon enfance, j'ai eu l'impression d'avoir eu beaucoup de choses et j'ai plus besoin d'enseigner de la simplicité. Et je m'aperçois que des fois, on finit par un peu détester ce que, dans un premier temps, on a aimé, en fait.
Alors ça, c'est une vraie problématique. Ça me rappelle ce que j'ai écrit dans Le couple haute qualité relationnelle, dans mon livre Le couple haute qualité relationnelle. C'est-à-dire que souvent, dans le couple, on est des champions du monde, les humains. On demande quelque chose au conjoint et à la conjointe. Il nous le donne, elle nous le donne. Et après, on passe le temps, quelques temps après, à lui reprocher ce qu'on lui avait demandé qu'il nous donne. C'est quand même, et là, on a une hypnothérapeute avec nous, une coach, et moi, en tant que formateur, c'est quand même assez étonnant, cette mécanique chez l'humain. Irène Cazenave.
Oui, il y a une phrase comme ça, ou qui est dans Mon Roi, je crois, le film. Où c'est, on quitte la personne pour la même raison qu'on l'a aimée au début.
C'est ça.
Il y a vraiment cette question où on va aimer la différence chez l'autre et puis il y a un moment cette différence elle va s'exacerber sans doute parce qu'il y a un souci de communication et puis d'en revenir à ce qui nous plaît aussi dans cette différence.
Alors on va mettre les choses à plat tout de suite. Je suppose que beaucoup de gens vont nous appeler parce que le conflit dans le couple, j'ai envie de dire le couple, c'est le lieu idéal du conflit. Pourquoi? Tout d'abord parce que c'est l'autre à bout portant, c'est l'autre tout près. Hein. Et si on n'a pas guéri nos blessures d'enfance, évidemment, ce sont deux enfants intérieurs, chers amis auditeurs, qui s'aiment. Il n'y a pas que les seins et un visage qu'on aime. C'est un enfant intérieur qui fait écho à un autre enfant intérieur. Pour autant, on n'a pas forcément la même blessure majoritaire. Certains sont des abandonniques, d'autres des trahis. Mais volins, nolins, 98%, on va tous tomber d'accord là-dessus autour du plateau, des problèmes des couples sont des problèmes de communication. Ça, c'est sûr. On a du mal, elle l'a dit tout à l'heure, Sylvie et Christelle, je veux rebondir là-dessus. Nous avons du mal parfois à communiquer et à nous comprendre. Christelle Verfaillie.
Et je dirais que sur ces 98%, il y a 80% des conflits en fait qui viennent toucher des blessures émotionnelles de notre enfance. 80%.
Mais évidemment, des premières années. Ça vous fait écho, Sylvie?
Ouais, mais complètement.
Est-ce que vous essayez de comprendre quelle est, vous savez, vous connaissez évidemment, bon, je référais évidemment aux 5 blessures de Lise Bourbeau, mais vous la connaissez, votre blessure majoritaire sur les 5? Vous êtes plutôt une abandonnée, plutôt une trahie, plutôt une rejetée, plutôt une quoi? Vous êtes une quoi, Sylvie?
Je ne sais pas.
Ah, faudra faire le test.
On a les cinq. Voilà.
Moi, j'ai fait beaucoup de conférences avec notre cher ami dans pas mal de salons. On a les 5, mais on en a une prioritaire.
Voilà. Ouais.
On en a une, par exemple, quand on est abandonnique, on est abandonnique. Généralement, on tombe sur un abandonnique. Quand on est trahi, on est trahi. Ceci dit, le trahi, je suis bien placé pour le savoir, met un masque de fuite, tandis que l'abandonnique, il met un masque de dépendance. Vous voyez que ça peut être déjà sujet à énormément de conflits. Quand on a un qui est hyper dépendant, et l'autre qui est plutôt dans la fuite.
Oui, ça ne favorise pas la communication.
C'est clair.
Il faudrait que je repasse
Faites le test pour savoir quelle est la blessure. Irène Cazenave.
Oui, sur cette question de l'enfance, de toute façon, dans le couple, on n'est pas que deux. On est deux avec nos histoires, avec nos parents, comment on a été aimé au départ par nos parents, comment nos blessures d'enfance, effectivement, sont venues. On n'est pas. Il faut vraiment comprendre qu'on n'est pas que deux dans le
couple. C'est drôle ce que vous racontez. Ça me rappelle une scène d'un film américain où, dans le lit, ils n'étaient pas deux, ils étaient six. Il y avait les deux conjoints, il y avait le père et la mère de l'un et le père et la mère de l'autre.
C'est un film de Woody Allen.
C'est extraordinaire. Ouais. Mais tais-toi, laisse lui dire. Non, mais pourquoi tu lui dis ça? Et c'était que des jeux de communication. Ça. Mais tais-toi. Mais pourquoi elle a dit ça? C'était le père, la mère et les deux conjoints.
Souvent, c'est ça. Et scène. C'est de savoir qui parle. Et il y a un moment de se dire, de se retrouver dans... Et le coaching est intéressant pour ça. C'est de se retrouver dans l'ici et maintenant à deux. Et de se dire, mais en fait, ça ne nous appartient pas.
Est-ce qu'il y a beaucoup de conflits dans votre couple, Sylvie?
Bon, je me dis qu'avec les années, ça, c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent.
Ah, bah ça, vous savez que ça a été étudié par les coachs et les thérapeutes américains, ça. Ouais, tous les couples s'engueulent pour les mêmes raisons depuis le début.
Ouais,
77% du temps. Christelle Verfaillie veut dire quelque chose là-dessus.
Ouais, en fait, il y a plusieurs phases dans un couple. Et la troisième phase, c'est ce qu'on appelle la phase de confrontation. Et donc, on reste régulièrement, beaucoup de couples restent dans cette phase de confrontation où on veut avoir le pouvoir sur l'autre. C'est vraiment une phase
il faut la passer,
de contrôle
cette phase.
Et de pouvoir. Ouais,
et on arrive à la passer quand on a dépassé l'ego, je pense.
Tout à fait.
Et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'enjeu de dominant-dominé dans un couple. Normalement, il ne doit pas y avoir de ranking.
C'est ça.
Il ne doit pas y avoir un qui se veut au-dessus de l'autre et l'autre en dessous.
Moi, j'aime dire qu'il n'y a que au lit qu'il peut y avoir un jeu de pouvoir, en fait.
Ouais. Ah, parce qu'au lit, il peut y avoir du jeu de pouvoir. Ouais. Vous êtes rigolote, vous. Bah, dites donc. Ah, on va, ça va devenir hot, l'émission.
Et
vous êtes d'accord si vous pensez qu'au lit, il y a un jeu de pouvoir.
Le pouvoir n'est pas, n'est pas toujours du même côté.
Ah, c'est intéressant ce qu'elle dit. On peut passer le pouvoir à l'autre. C'est ça que vous voulez dire.
C'est une autre émission.
Mémonie. Non, mais d'accord. Bon, j'avais bien compris votre allusion et pourquoi pas au lit. Mais ceci dit, plus profondément, là, sur un plan philosophique, après on va vous laisser, Sylvie. Vous savez, depuis la nuit des temps, l'humanité, chers et moniteurs, elle a toujours construit deux choses. Elle a construit du ranking. C'est un mot américain et anglais que j'aime beaucoup, ce qui veut dire de la hiérarchie, hein, et du linking. Le ranking, c'est vertical, donc, et le linking, c'est de l'horizontalité, c'est de la fraternité, c'est de la sororité. Bon. Ouais. Mon père disait toujours, paix à son âme, dès qu'il y a eu trois hommes sur la terre, il y en a un qui a voulu faire travailler les deux autres. Bon. Ça, c'est le ranking, n'est-ce pas? Et moi, je lui disais, papa, oui, mais dès qu'il y a eu trois hommes sur la terre, il y en a un qui a dit à l'autre, toi, t'es mon ami ou mon ami, je t'aime et on est à égalité. Et donc le couple, normalement c'est comme en amitié, je dis dans les vrais couples profonds et les couples haute qualité relationnelle, il ne devrait, avec beaucoup de conditionnels, quasiment pas, voire pas du tout, avoir de ranking. Et ça doit être un couple en linking. Alors c'est peut-être un doux rêve, un vœu pieux, mais ça devrait être comme ça, comme dans les grandes amitiés. Qu'est-ce que vous en pensez, Christelle Verfaillie?
Tout à fait. De toute façon, on grandit avec l'autre, donc c'est, on est d'égal à égal, et puis on se fait grandir, on se tire chacun.
Irène Cazenave.
Complètement. À partir du moment où il y a des enjeux de pouvoir et qu'on n'est pas en, dans une équipe et que on n'est pas dans la même équipe, surtout.
Exactement.
C'est là où ça devient questionnant et problématique.
Exactement.
Et qu'il y en a un qui veut le pouvoir sur l'autre ou qu'il y en a un qui aussi laisse son pouvoir à l'autre. Il y a des fois des jeux qui se font comme ça, des deux côtés aussi.
Et là, on revient sur l'histoire de l'estime de soi, parce que dans la relation dominant-dominé, donc de ranking, c'est clair qu'il y a beaucoup de couples verticaux comme ça. C'est quand même Volins-Nolins, un des deux qui a un complexe de supériorité, comme les deux, c'est les deux faces d'une même pièce, l'autre un complexe d'infériorité, l'autre le croit plus intelligent, à tort ou à raison, ou plus friqué, on revient à l'histoire des cadeaux, allez savoir si le conjoint de Sylvie, c'est pas le mec qui, dans le couple finalement, il gagne quatre fois comme elle, ou vice versa, on sait qu'un homme, quand il est avec une femme qui gagne quatre fois plus que lui, il est complexé parfois, parce que c'est vrai, Irène, n'est-ce
certains,
pas?
Certains peuvent l'être, effectivement, s'il y a cette idée de compétition au sein du couple,
c'est ça.
Qui est extrêmement questionnante et problématique.
On va vous embrasser, Sylvie. Merci d'avoir participé à l'émission.
Merci beaucoup.
Et réécoutez-la samedi à 12h sur Dynamic Radio. Vous pourrez vous entendre.
Merci.
C'est noté. C'est noté.
On vous embrasse et à très bientôt, Sylvie. Au revoir.
Au revoir.
D'autres façons de se quitter, quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille, pour moi, souvent te réclamer. Parce que comme une mère, tu me bordais de me protéger. Je t'ai volé ce sang, on n'aurait pas dû le partager. À bout de mots de rêve, je vais crier. Je t'aime. se danse l'un près. Et le gardien inavoué dans cette maison de pierre s'attend à nous regarder danser. J'ai tant voulu la guerre de corps qui se
la grande, l'immense Lara Fabian qui nous dit je t'aime, s'il suffisait qu'on s'aime. Vous êtes très très nombreux à vouloir poser des questions à Christelle Verfailly, donc on va essayer de vous prendre quasiment toutes et tous. On a un nouveau Radio Coaché.
Christophe Médici, Radio Coaché.
Bonjour Morgane.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir sur les ondes de Dynamique Radio dans Pour Vivre Heureux, ils vont coacher. Vous savez que notre invitée c'est Christelle Verfailly.
Oui.
Et qu'on traite du thème important, les conflits dans le couple. Qu'est-ce que vous aimeriez poser comme question à Christelle?
Donc moi, ça concerne plutôt une situation que j'ai au quotidien. Oui. En fait, ça fait quelques années que je vis avec mon copain et on rencontre quelques difficultés à se mettre d'accord sur la gestion de notre logement, que ce soit les tâches ménagères, mais aussi la décoration ou autre. Et ça peut entraîner des disputes qui durent dans le temps. C'est assez complexe à gérer.
Est-ce que c'est depuis le début, Morgane? Est-ce que ça a été, si de votre mémoire, vous êtes un couple de combien d'années, de combien de temps?
Alors, ça fait 7 ans que nous sommes ensemble, mais ça fait 5 ans qu'on habite ensemble.
D'accord. Et est-ce que, bon, évidemment, ça a été plus tôt lorsque vous êtes retrouvés sous le même toit, on est bien d'accord?
Oui, au début, c'était vraiment beaucoup. Ça s'est amélioré, mais quand même, ça reste...
Mais c'est récurrent. Alors, comme je le disais en début d'émission, et je le redis, à 98% du temps, les couples s'engueulent tout le temps pour la même raison, du début à la fin. C'est pas pour vous. Après, on peut trouver des antidotes. On peut trouver des antidotes pour l'apaiser et vous appeler pour ça. Donc, je le disais, elle nous met les pieds dans le plat, Morgane. C'est une des 5 causes des scènes de ménage les plus importantes, les conflits des tâches liés aux tâches ménagères. Christelle Verfailly, quand vous avez quelqu'un qui vient dans votre cabinet, que vous avez une séance de coaching là-dessus, comment vous prenez la question à vous de répondre à Morgane?
Alors, bonjour Morgane déjà.
Bonjour.
Alors, souvent, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que souvent, les disputes sur les tâches ménagères... et sur l'intendance, elles peuvent être un symptôme d'un problème de couple un peu plus profond.
Qui serait lié à quoi?
Qui serait lié effectivement à un besoin non nourri. Vous en discutez, Morgane, avec votre conjoint?
Sur le coup, quand ça se passe, non. Mais ensuite, on essaye de prendre un temps et il y a une personne qui fait les compromis. Mais c'est vrai qu'on met pas vraiment de mots dessus. Pas assez, je pense.
Mais qu'est-ce que vous mettez sous besoin non nourri, Christelle?
Oui, alors c'est ce que j'allais demander à Morgane. Morgane, quand quelque chose vous dérange, si je suppose que votre conjoint range pas ou quelque chose comme ça?
Oui.
Oui. Quand ça vous ennuie, qu'est-ce que vous ressentez?
Ben, en fait, je suis en colère, en fait, à l'intérieur, et je me dis, ben, je suis prise pour un peu la boniche, entre guillemets, donc là, je m'énerve, je le fais, je le montre, et ensuite, eh ben, c'est vrai, c'est de l'agacement, et ça monte au créneau.
D'accord. Et ça vous fait penser à quelle situation que vous auriez pu vivre dans l'enfance ?
Ben en fait moi rien en particulier, mais je sais en fait que finalement il ne ramasse pas parce que ben il a toujours eu sa maman qui ramassait derrière lui, et du coup moi j'ai pas envie que j'ai ce rôle là, et du coup donc ça m'agace encore plus.
D'accord. Vous entendez bien avec sa maman ?
Oui, très bien.
D'accord. Et alors moi j'ai envie de vous dire une chose, Morgane, c'est quand même de vous poser vraiment avec lui pour communiquer, hein. Et d'exprimer ce qui vous touche quand il fait pas le ménage, le problème avec sa maman, le comportement qu'il adopte par rapport à ça. Je pense que c'est important que vous lui expliquiez clairement.
Est-ce que vous avez déjà eu alors des sujets de discussion là-dessus, posément ? Parce que vous comprenez, Morgane, il y a deux manières de communiquer avec les gens. On va dire les choses d'une manière très simple. On peut être réactionnel. Si par exemple quelqu'un, on reprend votre image de quelqu'un qui range pas, donc c'est le bordel, à vos yeux c'est le bordel, d'accord, dans la chambre, dans le séjour c'est le bordel. Si on est réactionnel, on arrive et du tac au tac on fait « Oh écoute, voilà, et puis regarde, il y a encore ton sac de sport qui traîne par terre et tes fringues de sport, elles sont même pas mises à... » Ça c'est être réactionnel, vous voyez ce que je veux dire ? On part du ventre. Et il y a être relationnel. Relationnel, c'est de manière posée, plus mentalisée, sans émotion, sans instinct, de dire « Chérie, alors évidemment, la technique la plus connue, c'est celle de la communication non-violente, hein, de Marshall Rosenberg. Chérie, j'observe que ça fait la xème fois que je vois. Hein. » Vous voyez, de manière très posée, « Est-ce qu'on peut se parler, chérie ? Est-ce que tu peux venir sur le canapé ? Moi, je suis mal avec ça, tu vois ? Vous dites vos sentiments. Bon, mes besoins, hein, à parler de besoins, Christelle, c'est que la maison ressemble à quelque chose. Donc, je te demande, est-ce que tu peux faire un effort ? Oui. Irène Cazenave, en thérapie, vous diriez quoi en séance d'hypnothérapie ou de gestalt à Morgane ?
Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement cette communication consciente ou communication non-violente, d'exprimer son besoin, de savoir quel est le besoin et qui puisse aussi être exprimé en amont et d'être, je sais pas quand on parle de communication consciente ou non violente, d'être effectivement factuel, de je vois ça. Il y a ensuite reprendre ce qui lui appartient, c'est-à-dire je me sens mise dans une posture, je me sens pas respectée, etc. Et de vraiment sentir que ça lui appartient. Parce que l'autre, quand il laisse ses affaires, ça peut être juste qu'il laisse ses affaires parce que un, il n'en a rien à faire, mais qu'il attend pas de sa conjointe qu'elle la ramasse. C'est vraiment aussi mettre à plat ça. L'autre n'a pas forcément une attente que l'autre se comporte comme sa mère, et c'est remettre à plat les choses pour qu'il n'y ait pas non plus une surinterprétation de « tu fais ça parce que ça peut être autre chose » ou que pour l'autre aussi, chacun a un degré de tolérance par rapport au rangement aussi, et que pour certains, que le sac traîne, c'est ok, pour l'autre, c'est pas ok, et c'est que ça puisse aussi être mis à plat et qu'il n'y ait pas toute la surinterprétation de tu fais ça pour, alors que ça peut être pour d'autres raisons aussi.
Comment ça vous parle, ce qu'on vous dit tous, la Morgane, que ce soit Christelle, notre hypnothérapeute Irène et Cazenave ou moi?
Ouais, ben en fait c'est vrai, c'est moi qui ai un degré de tolérance élevé qui lui n'a pas, et en fait il me dit mais ça pourrait très bien rester là et c'est pas grave, mais c'est en fait j'ai l'image de la maison bien rangée, que ce soit tout le temps nickel,
oui,
et que
pas,
il s'en
pas, vous n'avez pas non plus à vous culpabiliser, je veux dire vous n'avez pas à vous culpabiliser, parce que d'abord depuis Marie Kondo on sait qu'une maison propre, bien lavée, bien rangée, c'est très bon pour le moral, c'est très bon pour la santé, mais c'est une vérité. Une maison bordélique, comme dit Irène, parfois c'est ok, et nous alors là on va tirer un petit peu, on va faire une étude de genre. Sachez-le, chers auditeurs, et c'est pas que pour Morgane, il est évident, ça a été étudié, que l'intérieur d'un lieu de vie n'est pas psychanalytiquement inconscientement investi de la même façon pour le genre féminin, Irène pourra en dire quelque chose là-dessus, que pour le genre masculin. Pour vous, mesdames, c'est vraiment l'intérieur de votre corps. C'est un symbole de l'intérieur de votre corps, moins pour l'homme.
Si je peux me permettre, alors moins pour l'homme, parce que les femmes sont conditionnées fonctionner. Ah, c'est pas, on fait pas le ménage avec ses organes génitaux. Hein.
Donc, non, mais c'est quand même, en psychanalyse, ça a été étudié, Irène, quand même.
Bon, la psychanalyse, c'est quand même une
pas que
extrêmement
la maison,
sexiste. Ouais. Non, je ne pense pas. Je pense pas, ouais. Alors, que c'est genré parce que c'est conditionné. Ouais. On est extrêmement conditionné. Ah ouais. Et on est conditionné aussi quand une maison n'est pas bien rangée. Les gens vont un peu reprocher quelquefois à la femme de, alors
ah, oui.
que, oui, oui. On est très conditionné à ça.
Des siècles et des siècles
de conditionnement.
Il y avait eu un film là où il y avait des écoles dans les années 60 d'être une bonne épouse et ça va bien ranger.
Et donc ouais. il y a vraiment cette notion là de conditionnement féminin ou masculin et où les hommes s'investissent peut-être moins parce qu'ils n'ont pas été conditionnés à.
Alors ça, Christelle.
Mais on a vécu des centaines d'années de patriarcat. Donc effectivement, aujourd'hui, on est un couple connecté où on essaie d'être égaux sur les tâches ménagères, sur l'éducation des enfants, sur tout ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. Et par contre, c'est pas encore ancré chez les hommes
qui
travaillent à ça.
C'est sûr qu'il y a une mauvaise répartition des tâches ménagères. C'est vrai qu'il y a ces années, Irène a entièrement raison, ces siècles d'habitus, comme dirait Bourdieu, et évidemment de conditionnement. Après, bon, j'avais cru lire quand même que la femme, c'était très important pour elle.
Mais on lui a donné ce rôle, oui, on est conditionné à
donc
ça.
Vous pensez que ce n'est que du conditionnement.
Oui. Mais oui, on fait pas le ménage avec nos organes génitaux, donc oui.
Ah, on balayait, repassait. Vous rappelez la chanson? Elle était géniale. Non, mais peut-être. En tout cas, une chose est sûre. Dans les cinq causes de scènes de ménage, c'est la cinquième, mais c'est une des cinq grandes causes de scènes de ménage. Vous savez, Christelle Verfaillie?
Moi, je voudrais un dernier conseil, Morgane, pour vous. C'est surtout de, quand vous communiquez, de ne pas utiliser le tu accusateur.
Tu fais
jamais ci, tu fais toujours ça,
utiliser
tu laisses
la formule,
toujours traîner tes chaussettes.
J'ai le sentiment.
Sentiment. Et puis, n'utilisez jamais non plus, et le mot toujours non plus est
toujours,
à bannir.
Toujours jamais.
Ouais.
Rien tout.
Voilà, c'est ça.
Quatre mots horribles. Toujours jamais rien.
Exprimez ce que vous ressentez et puis, on peut pas changer quelqu'un, mais il peut se transformer par amour. Donc peut-être que pour vous, parce qu'il aura envie d'être bien avec vous, peut-être qu'il va se transformer,
comportement. On avait fait une belle émission avec Brigitte là-dessus au début de l'année. Ensemble, en tant qu'invité chez Marie-Ange de Montesquieu, pourquoi veut-on toujours changer l'autre en couple? Moi, je suis persuadé, évidemment, qu'on ne change jamais personne, Irène aussi. Par contre, on peut faire évoluer la relation.
C'est ça.
Et la relation, nous en sommes co-auteurs et co-scénaristes. La relation, c'est une partition à quatre mains. Sur le piano, il y a la relation, c'est nous qui la jouons. Et la relation, elle, par contre, on peut proposer à l'autre de la faire évoluer. Irène Cazenave.
Complètement. Et même par rapport à ces histoires de ménage, si l'autre sait que ça va faire plaisir à son conjoint ou à sa conjointe de faire, ça peut aussi aider parce que ça génère aussi un levier de motivation. Je fais la vaisselle par amour, je prends cet exemple-là, mais il peut aussi y avoir ça qui est posé.
Pour le soulager ou la soulager,
oui,
tout à fait.
Je suis entièrement d'accord. Je veux dire, parfois, l'être humain ne fait pas que des choses qui sont dans le plaisir. Il y a aussi quelque chose d'être un être de devoir, surtout quand on partage un territoire commun. Et le territoire commun, Irène va être contente. Et là, en l'occurrence, le genre masculin, le genre féminin, le partage. Donc, pourquoi ne partagerait-il pas à 50-50 tout le reste du territoire? Mais pour autant, pour réussir ça, il aurait fallu, dès les premières semaines, moi je conseille de le faire, vos conscientisations de vos attentes relationnelles. Mais il n'est jamais trop tard, Morgane, et tous les auditeurs qui nous écoutent. Hein. Vous faites un petit tableau, Morgane, vous m'entendez?
Oui.
Vous conseillez, quel est le prénom du conjoint?
Issa.
Chacun dans votre coin, tiens, on va faire un petit jeu. Il y a un coach qui m'a conseillé ça. On va faire un petit schéma avec quatre cases, d'accord? On l'appelait le tableau des quarts. Conscientisation de nos attentes relationnelles. Vous entendez, Morgane?
Oui.
Faites quatre petites colonnes. Ce qui est essentiel pour moi dans notre couple, ce qui est important pour moi dans notre couple, ce que je ne veux définitivement plus en couple et notre couple idéal, le couple rêvé sur Terre pour moi. Mmh. D'accord? Vous écrivez dans chacune des quatre colonnes, vous écrivez des choses. Issa, de son côté, prend 2 minutes pour l'écrire aussi. Et après, on est au resto, cool à la cool, sans cause de conflit aucune, un moment de qualité à vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, vous vous dites ce que vous avez mis dans les quatre cases. Vous entendez, Morgane?
Oui.
Et déjà, l'autre comprend mieux. Mais mon Dieu, si on faisait ça les premiers mois, au lieu de penser à ce qu'on va, qui on va mettre le jour du mariage, tonton Gilbert à côté de la cousine Berthe, ce serait quand même l'écologie relationnelle. On va vous embrasser, Morgane. Merci d'avoir participé à Vivons Coaché.
Merci.
L'émission Morgane. Sur Dynamique Radio à midi prochain, samedi prochain, vous pourrez aussi l'écouter à nouveau, d'accord? Ok. Midi sur Dynamique Radio, vous entendrez avec vos copines. Eh, vous l'écoutez avec qui ça?
Oui.
Vous l'écoutez avec qui ça? Midi, samedi. On vous embrasse. Au revoir.
Merci.
Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Je ne rêve plus. Je ne fume plus. Je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi. Je suis laid sans toi. Je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureux. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau, je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade. Tu m'as guidé de tous mes maux. Pourtant moi j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix. Chantera, je suis malade, complètement malade. Quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis malade.
Le grand, l'immense Serge Lama pour Je suis malade. Là encore, une histoire d'amour qui fait mal. Et oui, il y a des amours qui nous font mal. Allez, il est temps de passer à un jeu important pour moi.
La minute mélothérapie de Christophe Médici.
Alors Christelle Verfeuille, vous êtes prête à jouer avec moi?
Avec plaisir.
Alors c'est en lien avec mon tout nouveau livre qui vient de sortir il y a une poignée de semaines, qui s'appelle Découvrir votre mission de vie grâce à la mélothérapie. Je vous dis en deux mots, hein, je vous plante le décor. On est parti d'une idée qu'il était possible de découvrir sa mission de vie. On est fou de la chanson. J'espère que vous aimez la chanson.
J'adore.
Voilà, on est fou de la chanson et ça fait des années que je pense que c'est un outil de connais-toi toi-même beaucoup plus important qu'on ne le pense et même de voir de thérapie. Donc on a créé la mélothérapie avec mon meilleur ami psychanalyste jungien et on a un petit jeu comme ça, c'est un dispositif en 18 clés. On va faire les 2-3 premières clés avec vous si vous voulez bien et ça vous en dira un petit peu sur vous, mais alors prenez-le comme un jeu, hein, vraiment.
Parfait.
Voilà, on va commencer par vous poser la première question. Dites-nous une chanson d'un chanteur ou d'une chanteuse que vous aimez beaucoup, Christelle.
Alors pendant longtemps, ma chanson préférée c'était Envole-moi de Jean-Jacques Goldman.
D'accord, alors on va prendre Envole-moi de Jean-Jacques Goldman, personnalité préférée des Français depuis plus de 7 ans. Si je vous demandais, Christelle, à quel thème positif cette chanson vous fait-elle penser? Et je dis bien un thème positif.
À la liberté.
La liberté, d'accord. On fait les 3 clés et je vous donnerai la clé des clés après. Deuxième, dites une chanson que vous aimez beaucoup, une autre chanson que vous aimez beaucoup.
Alors, toujours dans les années 80, Résiste de France Gall.
Ah, Résiste. Alors, à quel thème positif vous fait penser cette chanson de France Gall?
À la détermination, la positivité.
Ah là là, on va devoir vous répondre. Et troisièmement, à quelle une autre chanson, allez, pour faire les 3 clés sur 18.
Allez, L'amitié des enfoirés.
Alors, c'est la chanson de Françoise Hardy.
Ouais.
Chanson que je, qui est le, la chanson que je fais écouter à la fin d'HQR1, qui est une de mes chansons françaises préférées.
D'accord.
Ah oui, L'amitié de Françoise Hardy. C'est un chef-d'œuvre absolu. Mmh. Et donc, à quelle chanson, à quel thème positif vous fait penser cette chanson?
Ben, à l'amour et à l'amitié.
L'amour et
des
l'amitié.
Amis, ouais.
D'accord. Alors, première clé pour vous. Voilà un petit exercice de mélothérapie. La première clé que vous avez choisie par rapport à cette chanson, la liberté, c'est ce que vous amenez à l'humanité, aux humains. Vous, ça vous va très bien avec votre métier. Vous amenez de la liberté, vous avez envie que les gens se sentent libres. Est-ce que ça tombe juste, Christelle?
Ah oui, ça c'est sûr.
Ouais. La deuxième clé, c'est ce qui vous manque un peu en ce moment. Vous avez un peu plus besoin de détermination. Vous avez dit la détermination et le mot, le deuxième mot, vous avez dit...
Positivité.
Ouais, vous avez besoin de ça en ce moment. Ouais. On avait un peu plus besoin de ça.
Je me sens plutôt déterminée, mais
faut
oui,
y un peu plus.
Peut-être encore plus.
Un petit peu plus. On peut toujours plus. Toujours
on peut
mieux.
Toujours plus, on peut c'est toujours sûr. Mieux.
Et troisièmement, votre objectif à court terme, c'est dans les jours, les semaines et les mois, c'est de l'amour et de l'amitié.
Ah bah oui, l'amour.
Hein, ça
et
fait
l'amitié.
Penser à la chanson d'amour et d'amitié,
ouais,
mais
de Céline Dion.
Ouais, de Céline Dion. Vous avez bon, votre objectif à court terme. Là, à court terme, c'est plus d'amis, plus d'amitié, ressentir de l'amitié dans votre vie et de l'amour amical, d'amour d'amitié.
Ouais, tout
voyez
à
les
fait.
Trois bien mes clés.
Mais ça, je crois même que c'est en filigrane
ouais,
sur toute ma vie.
Mais là, c'est vraiment à court terme. Voilà, donc voyez, ça tombe juste. Hein, c'est
ouais.
étonnant. Hein. Bon, ben, on va continuer.
Merci.
On va continuer de rien. On va continuer avec vous. Et je voulais vous poser une question. Quand vous avez, est-ce que vous coachez? Alors ça, c'est une question déjà que Irène avait un petit peu abordée. Mais vous avez les gens toujours en individuel ou vous avez parfois les gens en coaching de couple?
J'ai parfois en coaching de couple.
Et est-ce évidemment. Que souvent, donc évidemment, un couple qui vient, il a franchement des dissensions et il a des moments où ça s'accorde pas. J'aime beaucoup
tout
le mot
fait.
Accord, désaccord.
Oui,
hein. C'est bien ça. C'est un couple, ça danse, hein, comme disait Serge Fest, et ça fait de la musique aussi. Comment vous abordez les sujets de conflit quand vous voyez un couple très tendu, par exemple,
ouais.
très en conflit?
Alors moi, je les amène vraiment à relationner. Hein. C'est ça, c'est tout le long de mon coaching de couple, c'est que ils vont apprendre à relationner parce que finalement, la communication, c'est pas naturel. Quand on leur demande comment ils communiquent, mais si nous on parle beaucoup, oui, alors on se rend compte qu'ils parlent des vacances, des enfants, du quotidien, mais ils apprennent pas vraiment à s'écouter vraiment. Et puis surtout à communiquer leurs besoins, mais leurs besoins profonds.
En fait, ils sont dans ce que j'appelle, moi, c'est mon combat depuis 30 ans, donc c'est aussi pour ça que j'ai créé ma méthode. En France, on est persuadé, comme dans des centaines de pays, que la communication, ça ne s'apprend pas. Or, ils sont dans une communication instinctive et ils pensent que c'est naturel de communiquer parce que depuis qu'on a appris à parler, qu'on dit des mots, on communique. Mais c'est pas ça l'écologie relationnelle. L'écologie relationnelle, c'est éduquer sa manière de communiquer avec l'autre. Mais pour autant, le gros problème, chers amis auditeurs, je suis désolé, après on va demander à Irène ce qu'elle en pense. Mais c'est que le problème dans notre pays en tout cas, mais comme dans beaucoup de pays, sous le mot communication, on met énormément de choses. C'est un mot fourre-tout. Il y a la com des pubards, c'est de la communication. Il y a la com des politiciens, c'est de la communication aux yeux des gens. Il y a la com de la télé, il y a la com de la pub. Et nous, on parle d'une autre communication. Mais voilà, Snolins, regardez, faisons un micro-trottoir dans la rue. Ça, je le disais dans mon livre, les personnes toxiques, vous vous rappelez, Irène. Et j'ai, il y a com et com. Mais faites un micro-trottoir quand on dit que quelqu'un est un grand communicant. Mais c'est plutôt vu d'une manière dépréciative. C'est que c'est un baratineur et c'est un politicien. Il va t'entendre louper. Évidemment que nous, on parle pas de ça. Mais les gens n'ont rien appris à l'école là-dessus. Donc, on les envoie au casse-pipe. Mais typiquement, moi, je dis que ça devrait être un savoir fondamental. Irène Cazenave.
Complètement. Il y a plusieurs choses dans la communication. Je vais revenir aussi à la communication qu'on a vis-à-vis de soi-même. Parce que pour pouvoir exprimer ses besoins à l'autre, il faut aussi qu'on conscientise ses propres besoins. Donc, il y a cette première étape de communication avec soi, d'être à l'écoute de ses émotions et de ses besoins. De ce que vous évoquez sous le terme intelligence émotionnelle aussi, c'est de savoir quelles sont nos émotions avant de les communiquer à l'autre déjà. Et dans cette communication, il y a la notion de, on en parlait tout à l'heure, de surtout pas accuser l'autre, de dire tu fais ci, tu fais ça, mais plutôt d'en revenir à je, et qui est aussi de je, ça, mes sentiments, mes émotions, mais qui m'appartiennent d'ailleurs. Et puis, il y a cette notion aussi dans la communication d'écouter, et d'écouter vraiment l'autre, pas pour lui répondre, mais juste pour l'écouter.
Et Christelle Verfeil, il peut arriver aussi que dans les deux, après le conjoint, ça peut être des conjoints hétérosexuels ou homosexuels, ça n'a rien à voir avec l'orientation. Mais il y en a un qui a été force de proposition, qui a été désirant de faire ce coaching, il y en a un autre, allez, si je pousse, qui vient contraint et forcé, s'il vient pas contraint et forcé, on sent, vous avez senti ça, il vient moins désirant. Il vient pour faire plaisir à l'autre. Et ça, bon, il faut le faire évoluer parce que c'est pas un bon départ. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors je suis tout à fait d'accord. C'est pas tout le temps le cas. Bien souvent, pour les couples hétéros, c'est quand même madame qui va proposer l'accompagnement, souvent quand même. Et d'ailleurs, madame, elle a cette pensée ou cette croyance que elle communique beaucoup plus. Alors moi, je voudrais quand même un petit peu préciser les choses. C'est que c'est vrai que les femmes, parfois, communiquent beaucoup plus que les hommes, mais pas toujours de la bonne manière. Parce que faut qu'on parle, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça... ça c'est pas de la bonne communication. Donc oui, les femmes sont très en demande de communication, mais mon rôle en tant que coach, ça va être de leur apprendre à relationner, à communiquer, parce que c'est pas parce qu'on parle et que j'ouvre ma bouche et qu'il y a des sons qui sortent que je communique bien.
Irène Cazenave.
Complètement, il y a vraiment cette notion-là d'apprendre même la communication, d'apprendre aussi à écouter l'autre et d'apprendre, j'en reviens encore à ça, à s'écouter soi avant de partager à l'autre. Communiquer, c'est pas tout dire à l'autre, ça peut être déjà de filtrer, de se dire qu'est-ce qui m'appartient là et comment je le partage avec l'autre. Il y a aussi cette notion de partage dans la communication.
Il y a aussi l'idée, Goethe disait, tant qu'on n'a pas compris son passé, nous sommes condamnés à le répéter. Et Volens-Nolens, il y a quand même deux familles d'êtres humains sur la Terre. Il y a ceux qui font un travail sur eux et ceux qui n'en font pas. Et j'aimerais qu'un jour l'humanité, ce soit la famille numéro une qui soit plus nombreuse sur Terre que la famille numéro deux. Et Volens-Nolens, c'est la famille numéro deux. Sur combien d'êtres humains, chers amis auditeurs, encore en ce début d'année 2024, font-ils qui des thérapies, qui des coachings, qui des stages de profondeur? Mais pas tant que ça. On va dire que c'est du 80-20, 70-30. Enfin, Irène, moi, je dirais 20-80.
Ça dépend des milieux aussi. Enfin, ça se démocratise quand même beaucoup.
Un peu plus, grâce au développement personnel.
Ça se démocratise beaucoup grâce au développement personnel et au coaching. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas non plus faire de thérapie pour plein de raisons. Parce qu'ils ne veulent pas aller creuser dans le passé. Parce qu'il y a des peurs. Et le coaching, ça permet, en regardant ce qui pose question dans le présent et ce qui peut être amélioré dans l'avenir... ça permet aussi de faire un travail sur soi sans passer par ces difficultés-là, même si à un moment il faudra un petit peu y passer quand même. Mais ça ouvre aussi des portes pour les gens qui sont réticents à la thérapie.
Christelle Verfaillé.
Je suis tout à fait d'accord. Alors néanmoins, moi je pense que on peut très bien vivre sans travailler sur soi si on est OK et si notre vie elle nous convient. Faut quand même pas oublier que la thérapie ou le développement personnel, c'est parce qu'on a un besoin.
Alors moi je mettrais un bémol. Déjà pour faire la différence entre le développement personnel et la thérapie. Parce que thérapie c'est plus profond.
Tout le monde n'a pas besoin de thérapie,
mais tout le monde a besoin de travailler sur soi. Ça c'est ma vision des choses. Je vais dire pourquoi. Parce que vieillir c'est naturel, grandir c'est un travail. Et moi je crois à la formule magique, la mienne, hein, potion magique MMA. Alors c'est pas zéro blabla, zéro tracas, mais c'est une motivation, une méthode et un accompagnement. Volins, l'auto-analyse, elle a toujours ses limites. L'introspection, c'est pour ça que nos métiers sont aussi importants, la formation, la thérapie, le coaching. Et donc, c'est là que je mettrai ma mode. Tout le monde a besoin du connais-toi toi-même socratique, parce qu'on peut vivre comme un bourrin. Ça, c'est sûr.
Je pense qu'on peut être sage en lisant, en apprenant de la vie.
Mais c'est déjà faire un travail sur soi que de lire.
Alors, évidemment, mais là, on parlait d'accompagnement thérapeutique ou coaching.
Thérapeutique, je dirais pas que tout le monde a besoin d'une thérapie, mais je dirais que tout le monde a besoin de travailler sur soi.
Oui.
Pourquoi? Parce que, malheureusement, comme disait mon ex-prof Jacques Salomé, moins tu fais un travail sur toi, plus ça va se manifester, notamment en amour. Parce qu'en amour, par tes dires, tes comportements et ta communication, tout ce que t'as pas travaillé, ton inconscient, aujourd'hui on le sait, hein, depuis plusieurs centaines d'années, on a beau cracher sur un certain Freud, c'était quand même un génie, quelque chose qui s'appelle l'inconscient. Excuse-moi, le plus bourrin de tous les bourrins, il peut dire « moi j'ai pas besoin de ça moi hein. ». C'est ce qu'on appelle les gens inconsciemment incompétents dans l'indice d'enseignabilité. Vous savez, ils sont tout en bas. Et tu sais comment tu leur connais, chers amis auditeurs? Ils disent « je sais, je sais, je sais ». Et moi j'en ai pas besoin, un peu comme la chanson de Gabin, vous voyez. Mais non, je suis désolé, non tu sais pas, non tu sais pas. Tu sais pas, parce que le plus imbécile de tous les imbéciles peut dire « je sais ». Et là où vous avez raison, c'est vrai que c'est pas parce que la femme qui joue très la driveuse dans le couple est tout le temps là à vouloir communiquer qu'elle est meilleure que l'homme qui parfois lui pourrait dire quelque chose mais reste plutôt dans les silences, communique autrement. On va passer une page musicale, c'est passionnant, restez avec nous. Vous êtes très nombreux à appeler, on va vous avoir en ligne, hein. Restez avec nous.
Plus les mots, ces mots qui te faisaient rire et ceux que tu trouvais beaux. J'ai tant de fois voulu t'écrire, et tant de fois courbé le dos pour revivre nos souvenirs. J'ai même aussi frôlé ta peau. Ou dis-moi, regarde-moi, je ne sais plus comment t'aimer et comment te garder. Parle-moi, parle-moi, je ne sais plus pourquoi t'aimer. Pourquoi continuer? Tu es là, mais tu es si loin de moi. Je ne sais plus comment poursuivre cet amour qui n'en est plus. Je ne sais plus que souffrir. Souffrir autant que j'y ai cru. Et je sais qu'il me faut survivre et avancer un pas de plus pour qu'enfin cesse la dérive des moments à jamais perdus. Oh, dis-moi, parle-moi,
Et oui, la belle Isabelle Boulet qui nous dit qu'elle se demande si elle est encore amoureuse, si ce couple a encore un sens. C'est bien un vrai problème. Pourquoi parfois y a-t-il des conflits de couple? C'est notre couple dur, mais tous les couples durables ne sont pas heureux. On a une nouvelle radio coachée.
Christophe Médici, Radio Coachée.
Bonjour Christiane.
Bonjour.
Nous sommes heureux de vous accueillir sur les ondes de Dynamique Radio dans Pour vivre heureux, vivons coachés. Vous savez que notre invitée centrale aujourd'hui, c'est Christelle Verfailly. Qu'est-ce que vous aimeriez poser comme question à Christelle, Christiane?
Moi j'ai un petit conflit qui est quand même relativement récurrent avec mon époux. Et donc, quand je lui demande de faire quelque chose, par exemple, à la maison pour l'aménagement ou des petits travaux, il me dit toujours « oui, je vais le faire ». Mais en fait, si je n'insiste pas à différentes reprises, il ne le fait jamais. Et donc, ça devient effectivement, à la longue, une source de conflit.
Alors, c'est amusant parce qu'on parlait des tâches ménagères et là, en l'occurrence, vous parlez aussi d'un des 5 langages de l'amour de Gary Chapman, qui est le service rendu. Vous voyez, Christiane,
oui,
c'est une des 5 façons de se dire « je t'aime hein ». Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, comme disait Simon Musset. Christiane, une dame vient comme ça, vous, en séance de coaching, et vous dit qu'il y a ça. Comment vous allez pratiquer?
Bonjour Christiane. Alors c'est une question intéressante, un peu comme les tâches ménagères d'ailleurs. Mais j'ai envie de rebondir sur ce que vous avez dit, Christophe, parce que les 5 langages de l'amour, c'est quand même important. Et effectivement, il faut bien comprendre que dans un couple, on n'a pas toujours le même langage de l'amour. Et j'aimerais savoir comment vous dites à votre conjoint vos insatisfactions. Comment vous lui montrez?
Christiane.
Je vais dire que ça m'agace à la longue, et puis donc je lui répète, j'insiste sans arrêt en disant écoute, je t'ai demandé, tu me fais pas, et je redemande, et en fait c'est au bout de 5-6 fois que ça tourne au conflit, quoi. Mais sinon, j'essaye d'être patiente et de lui dire, écoute, voilà, je t'ai demandé, t'oublie pas, etc. Mais j'ai un époux qui est charmant, qui me dit toujours, oui, il n'y a pas de problème.
Irène Cazenave, elle a un époux charmant, mais en même temps, ça n'avance pas.
Oui, parce qu'il y a d'autres choses aussi derrière. Il y a une demande, donc je vais dire comme ça, il y a la charge mentale de la maison qui est la femme et qui... Je vais me permettre de le dire comme ça, qui donne des ordres, je te demande gentiment de faire, mais que c'est un peu quand même du management avec, on en parlait en début d'émission, avec cette notion de ranking, c'est-à-dire que il y en a une qui est au-dessus et qui dit voilà, il y a tout ça à faire, donc est-ce que tu peux faire ça s'il te plaît, et l'autre qui est en dessous, donc peut-être que il peut y avoir un ressenti justement de l'autre de pas de je vais le faire parce que j'habite comme ma compagne dans cette maison et que c'est important aussi pour moi d'avoir une maison où les choses sont faites, mais cette notion de se sentir peut-être redevable, ou il y a vraiment ces enjeux-là qui sont derrière à prendre.
Vous voulez dire que le mari se considère un peu infantilisé dans ces cas-là, Irène?
Ça peut effectivement être ça, ou il faut redemander, etc. Et puis moi, ce que j'entends, c'est je t'ai demandé. Il y a plus peut-être à exprimer le besoin. J'ai besoin que telle chose soit faite. Est-ce que tu peux le faire? De réexprimer le besoin qui est derrière, ça me semble aussi important.
Ça vous fait écho comment tout ça, Christiane?
Écoutez, moi, comment j'allais dire,
Irène.
En fait, moi, je me sens quelquefois triste. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour moi, j'ai des objectifs et j'ai l'impression que je peux pas les atteindre parce que ça n'avance pas. Voilà, c'est tout.
Mais alors.
Et est-ce que ces objectifs-là, ils sont exprimés vis-à-vis de votre conjoint? Est-ce que vous lui avez donné le tableau d'ensemble?
Non. C'est vrai que je ne lui dis pas. Écoute, ça me rend triste parce que ça n'avance pas.
Voilà, vous voyez, comme vous faites bien d'appeler pour vivre heureux, vivons coachés. Peut-être bien de pas être réactionnel, comme je disais. Vous réécouterez l'émission samedi sur Dynamique Radio à 12h, d'accord? Un samedi. Mettez-vous sur Dynamique Radio sur Internet et vous verrez. Et vous entendrez aussi Christelle Verfailly. Elle va rebondir, d'accord. Christelle. Mais peut-être qu'il serait bon, comme vous l'a dit Irène, de pas être réactionnel continuellement. C'est-à-dire, oui, non, mais c'est pas, tu fais jamais, parce qu'après, un sport féminin, elle va être contente, Irène, je fais du sexisme. la reprochite aiguë, c'est un sport très féminin. Pourquoi on n'a pas fait ci, pourquoi on a fait ça, pourquoi c'est trop tard, pourquoi on n'est pas allé,
les femmes ont la charge mentale, c'est pas
je savais que j'allais faire bondir Irène. Bon, la reprochite aiguë, c'est un sport féminin, et comme je veux faire 50 partout, la balle au centre, la fuitite aiguë, c'est un sport masculin. L'homme, il se barre, lui. Il veut pas communiquer, il part ailleurs, il veut pas entendre, il fait pas ce qu'on lui demande de faire, vous voyez. Donc, fuitite, reprochite. On se comprend. Christelle Verfailly, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Christelle?
Je vais rebondir, Christophe, sur ce que vous dites, parce qu'effectivement, il y a 4 attitude à pas avoir lors d'un conflit, c'est 1, le mépris, c'est-à-dire se placer au-dessus de l'autre, 2, la contre-attaque, essayer de répondre et de partir dans un jeu de pouvoir, la troisième chose, c'est effectivement la fuite, hein. C'est je pars, donc là c'est un peu ce que fait votre conjoint, hein. oui, je te dis oui, mais je pars tout de suite, et puis la quatrième chose, c'est effectivement la critique et le reproche, et donc quand vous dites je t'ai demandé de faire ci, tu ne l'as pas fait, je t'ai. Je pense effectivement, comme disait Irène, qu'il se sent managé et que donc peut-être qu'il met de la résistance à ça. Comme un collaborateur en entreprise.
Mais c'est tellement vrai qu'une des 4 exceptions, moi qui suis aussi formateur en management de l'humain, en entreprise depuis 30 ans, une des quatre exceptions du management, ce mot anglais, c'est le ménage. Et c'est... Il y a ménager, faire attention aux gens. Il y a manage, le manège des chevaux. Mais faire le ménage aussi, ça, c'est une des formules du management. Vous voyez, Christiane? Donc, oui, elle a raison, Irène. Il y a une manière. Bah, évidemment, vous êtes un couple de combien d'années? Je peux me permettre, Christiane, de combien d'années?
Oui, 40 ans.
Bah, voilà, un couple de 40 ans. Donc, vous êtes une femme, vous n'êtes pas une jeunette, hein, on est d'accord, mais vous êtes encore très jeune dans vos têtes. Mais, voilà. Donc, vous avez été élevée, comme le disait Irène si joliment, avec beaucoup d'habitus et beaucoup de conditionnements qui la femme, c'était elle. Là, je peux me permettre, Irène, hein, c'est l'époque. C'est elle qui était la fée du logis. C'est la maîtresse de maison. C'est quand même plutôt la femme qui s'occupait de ranger, de bien nettoyer, de ce que la maison ressemble à quelque chose. L'homme, il venait du travail. Moi, j'ai vu mon père, paix à son âme. Hein, c'était, il rentrait le soir du travail, il allait bosser comme un chien. Et il s'est dit, qu'est-ce qu'on mange? Il arrivait, les enfants se mettaient à la table et qu'est-ce qu'on mange? D'accord? Et tout était prêt et tout ça. C'est ça, les enfants nés dans les années 70, 60. Je veux dire, c'est ça qu'on a vu. On n'a pas vu autre chose. Hein. On n'a pas vu papa qui prenait la serpillière et la brosse.
Non, mais il faisait le bricolage, mais sous la guidance de la maîtresse.
Et maman regardait si c'était bien fait. Et menait ménager, manager et mettre les notes pour voir si ça avait été bien fait le bricolage. Non, mais vous êtes de votre temps. Christiane.
Oui, mais ce que je veux dire également, alors, pour, moi j'ai eu un papa qui, ne faisait que ça. Bricoler tout de suite, dès que maman lui demandait quelque chose, hop, il le faisait, etc. Et donc, je pense que j'ai du mal, sans doute, à accepter...
Le mari n'est pas à la hauteur de papa.
Voilà.
Le mari n'est pas à la hauteur de papa.
Eh oui.
Mais my heart belongs to daddy. Il n'y en a pas un qui peut être au-dessus de papa, vous savez, Françoise. Papa, moi, quand je serai grande, je me marierai avec papa.
Eh ben oui.
Là, la maman, elle dit, papa, c'est le prince de maman. Toi, tu trouveras ton prince. À 4 ans, ça s'appelle gérer le dip. Et toutes les petites filles, je vous assure, entre 3 et 5 ans, elles ont tout dit. Vous savez, j'ai cru que là, c'était votre cas. Vous avez eu envie de vous marier avec papa. Irène, vous avez eu envie de vous marier avec papa. Toutes les petites filles veulent se marier avec papa, Françoise. Et une avec 37 ans. Oui, Françoise, on vous écoute. Allô, vous êtes partie? Vous avez payé?
Christiane.
Oui, non, je sais pas. Pourquoi je vous appelle? J'arrête pas de vous appeler Françoise alors que c'est Christiane. Christiane, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Christiane?
Oui, bah, c'est intéressant parce que est-ce que votre conjoint, lui, aime le bricolage?
Bon, écoutez, il a jamais eu l'exemple d'un père qui bricolait. Pas du tout, du tout.
C'est peut-être pas son truc.
Et puis, effectivement, c'était un bureaucrate, j'ai envie de dire, hein, mon époux. Donc, il était dans les papiers tout le temps. Et effectivement, on lui a jamais appris à bricoler.
Mais il a d'autres talents.
Tout à fait. Oui. Talent. Non, mais il y a pas de souci. Hein. Non. Il y a aucun souci.
Vous savez, en amour, parfois, il y a de la sérendipité. En fait, on se fait une croyance sur la personne qui serait parfaite pour nous, et finalement, chemin faisant, la sérendipité, vous savez ce que c'est, chers amis auditeurs, hein, c'est partir en quête de quelque chose et trouver quelque chose qu'on ne s'attendait pas à trouver par un coup de synchronicité, le hasard n'existant pas, hein, le hasard c'est le pseudonyme que prend Dieu lorsqu'il veut passer inaperçu, comme disait Einstein, et on trouve autre chose, voyez. Vous avez trouvé cet époux-là, c'était lui qu'il vous fallait. Mais n'attendez pas qu'il soit comme papa, parce qu'il n'est pas papa.
Oui,
Vous faites un transfert paternel comme X% des gens en couple qui font un transfert maternel sur leur femme. Ils sont bien contents parce que le nombre de femmes qui transforment leur homme en leur petit garçon au bout de 6 mois, c'est juste mirobolant. Et après, il dit, mais pourquoi t'es pas un bonhomme? Bah, t'en as fait un petit garçon. Sauf au lit. Elle a raison, Christelle. Là, il faut qu'il redevienne un bonhomme au lit. Ça, c'est sûr. Mais tout le reste du temps, elle fait, oh, j'ai pas 2 enfants, j'ai 3 enfants. Bah, t'en as fait un enfant. T'en as fait un enfant. Alors, il a tellement infantilisé. Pourquoi tu veux au lit? Il faut que tu redeviennes un bonhomme. Ça, c'est sûr, hein. Mais, c'est très étonnant, n'est-ce pas, Irène Cazenave, ce transfert, co-transfert des deux côtés.
Complètement, et c'est pour ça que c'est important à un moment de se poser et de se retrouver en tant que deux individus qui co-construisent sans le parasitage de j'aurais voulu, je voudrais que tu sois comme ça alors que l'autre est pas comme ça. C'est toute cette question de ne pas changer l'autre non plus, de l'aider à évoluer sans le changer.
Christiane, qu'est-ce que vous avez Christelle à Christiane.
Aimer, ce n'est pas vouloir que l'autre soit comme on souhaiterait qu'il soit.
Tout
voilà,
à fait.
C'est tout le contraire. C'est deux individualités qui vont créer un espace de couple. Mais chacun est comme il est. Et puis surtout, c'est, ce qui nous fait souffrir, c'est pas la différence de l'autre, c'est ce que je ressens quand tu me fais ça. Donc à la limite, Christiane, j'ai envie de vous dire, quand quelque chose vous ennuie avec votre compagnon, dites-lui, moi ça me procure ça comme émotion quand tu fais ça. Est-ce que tu voudrais bien faire peut-être? Et puis vous essayez de trouver une solution.
Et peut-être que j'ai 2 cadeaux à vous faire pour vous remercier d'avoir participé à l'émission. D'accord, Christiane?
Okay. D'accord.
Le premier, je vais vous donner la plus belle définition de l'amour que je connaisse, mais vraiment, hein, et j'en ai lu des millions des livres là-dessus, et j'en ai écrit moi-même, vous voyez, j'en ai écrit 3.
Oui.
Et je travaille avec Brigitte Lahaie depuis 2009. C'est la plus belle définition de l'amour, vous réécouterez l'émission samedi, vous réécouterez ça, d'accord, ok?
Oui,
c'est
sans problème.
C'est Gérard Leleu qui l'a dit dans un livre que vraiment tout le monde devrait lire, qui s'appelle L'écologie de l'amour, c'est aimer, c'est aider l'autre à s'aimer mieux chaque jour.
Oui, tout à fait. Oui,
ça, c'est la plus belle de toutes les définitions de l'amour. Et la deuxième, c'est, j'ai un ami, moi, c'est mon meilleur ami, qui a écrit un livre, vous pourriez l'offrir à lui, il s'appelle comment votre époux?
Joël,
et travailler tous les rituels qu'il y a dedans, parce que c'est des exercices pratiques. Ça s'appelle « Merci mon amour, et si la gratitude était le secret des couples heureux ». Et c'est mon meilleur ami qui l'a écrit, il s'appelle Christophe Médici. Et c'est un très très beau livre, voyez, parce que je ne crois qu'à une seule chose, le plus grand game changer en amour, c'est la gratitude. Les rituels de gratitude. Donc voilà, et je vous assure que c'est niveau de l'or. Et vous savez pourquoi ça va être un cadeau pour vous? Ben parce que peut-être que je peux vous l'offrir parce que l'auteur c'est moi. Donc je crois que je vais avoir une solution pour vous l'offrir ce livre pour tous les deux.
D'accord.
Et vous pratiquerez ça parce que je vous assure que c'est très important, n'est-ce pas, Christelle, la gratitude?
Très important. Ça fait vraiment partie de l'amour.
C'est essentiel. On va vous embrasser. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission, Christiane.
Merci à vous.
À bientôt. On vous embrasse.
À très bientôt.
Au revoir.
Merci. Au revoir. Au revoir.
Au revoir.
Envie de changer l'atmosphère d'attitude. Tout doucement, besoin d'amour pour remplacer l'habitude. Tout simplement, arrêter les minutes supplémentaires qui font de ma vie un enfer. Je l'aime encore, mais plus vraiment. Tout doucement, sorti de ses draps et de son cœur. Tout doucement, sans faire de bruit pour pas qu'il pleure. Tout simplement, changer de peau, oublier toutes les avances.
fermé les yeux, s'est senti de nouveau autrement. Tout simplement, fermé pour prendre un sentiment différent. Revient peut-être un jour à moi et non, dans son cœur, dans sa tête. Si encore il m'attend. Du temps qui passe, reste en silence quand on debut en serre. C'est pas vraiment la solitude, mais c'est la certitude d'un sentiment indépendant de son attitude. Tout simplement, fermé pour cause des sentiments différents. Dans son cœur, dans sa tête. Change tout vraiment. Tout simplement, choisis un nouveau livre d'images. Tout doucement, réapprendre à aimer passionnément. Tout simplement, une autre histoire dans un monde différent. Tout simplement, fermez vos portes et sentiments différents. Dans son cœur, dans sa tête. Si encore il m'attend, tout simplement, fermez vos portes des sentiments différents. Tout simplement, fermez vos portes infantiles. Dans son cœur, dans sa tête.
Ah, la grande Bibi. Extraordinaire chanson, tout doucement. Vous êtes très nombreux à vouloir nous poser des questions. Il y a des écrits aussi sur Irène me fait un clin d'œil sur les messages, n'est-ce pas, Irène, je crois.
Oui, sur les réseaux sociaux.
Oui, sur les réseaux sociaux. On a un nouveau Radio Coaché.
Christophe Médici, Radio Coaché.
Alors, on écoute Julien. Il y a une question de.
Oui, effectivement, il y a une question de Patrick hein, sur nos réseaux oui. sociaux, sur les réseaux de Dynamic Radio,
oui.
qui nous demande comment faire pour un premier rendez-vous pour être en phase et qu'il n'y ait pas de conflit.
Christelle Verfailly, très bonne question. Ouais. Le premier rendez-vous est un enjeu. Et chacun y met un enjeu incroyable, d'autant plus lorsque c'est un premier rendez-vous via les sites de rencontre. Comment faire, Christelle Verfailly?
Tout à fait, c'est une très belle question. Alors justement, tout le monde y met de l'enjeu et moi j'ai envie de dire, il faudrait ne pas mettre d'enjeu.
C'est possible
ça. Quand on va au premier rendez-vous, tout à fait. En fait, on est vraiment là pour faire connaissance, d'accord? Et pas de se demander si on va passer sa vie avec ou si ça va être une belle histoire, pas du tout. Donc moi, je conseille vraiment déjà d'y aller dans un esprit... on verra bien. Ce que je veux, c'est faire des rencontres, c'est voir rencontrer de nouvelles personnes, et donc j'y mets de la joie, de la zénitude. C'est vraiment, j'y vais assez cool. Et alors, comment se disputer en premier rendez-vous si on y va assez cool? Moi, j'ai un peu de mal à comprendre comment ça peut se passer. Mais peut-être qu'il y a des gens qui se disputent au premier rendez-vous, mais je pense que dans ces cas-là, les attentes, elles doivent être énormes, ou en tout cas, ça doit être des conflits sur des valeurs, sur des façons de penser. L'amour, c'est quatre connexions, la connexion physique, la connexion intellectuelle, la connexion spirituelle et la connexion émotionnelle. Alors évidemment, au premier rendez-vous, on va pouvoir voir s'il y a de la connexion physique un peu, s'il y a de la connexion intellectuelle et spirituelle. La connexion émotionnelle, ça viendra après souvent. Mais donc la connexion intellectuelle, si on n'est pas d'accord sur certains points de vue ou si on n'est pas d'accord sur des façons de penser, on peut peut-être effectivement avoir un conflit au premier rendez-vous.
Irène Cazenave, premier rendez-vous.
Mais il y a plusieurs choses. Il y a effectivement de pas y mettre trop d'enjeux. Et il y a cette question de conflits qui peuvent être aussi un peu larvés. C'est-à-dire qu'il y a des non-dits. Et puis, il y a cette question qui arrive assez régulièrement où les gens ont un premier rendez-vous, ils ont l'impression que ça se passe bien et puis ils sont ghostés. Il n'y a pas de deuxième rendez-vous. Ça arrive quand même très régulièrement. Et la personne va se retrouver un petit peu toute seule avec ça en disant et si ça se reproduit, s'il y a un schéma de reproduction, se dire est-ce qu'il y a un problème, moi, dans ma façon de me présenter à l'autre, ou c'est pas véritablement un conflit, c'est plutôt un conflit larvé, mais en tout cas, la réponse de l'autre, c'est la fuite.
Alors, c'est vrai qu'il y a un vrai problème aussi lorsque c'est une première rencontre, en tout cas sur les sites internet de rencontres, c'est que les sites internet de rencontres, c'est une agence immobilière avec 100 000, 500 000 profils. On est d'accord, Irène?
Effectivement.
Et donc, il y a le côté, il y a peut-être mieux 5 minutes après sur le site. Donc
c'est la vraie vie, donc il y a tout le monde sur les sites.
Oui, mais le problème, c'est la démultiplication des possibles.
Tout
ça que je veux dire.
Mais c'est aussi, il faut apprendre à choisir les bonnes personnes aussi.
Oui, mais après,
discuter
derrière un écran, c'est pas simple.
Alors, c'est pas simple, évidemment.
Ça, on dit plus de choses lorsqu'on est en réelle présence.
La société de consommation est venue s'immiscer dans
les
rencontres. Ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on choisit un partenaire comme une voiture.
Irène, vous n'aviez pas fini.
Oui, j'avais pas fini. Ça complexifie, évidemment, les relations, mais là encore, c'est se demander, quand il y a quelque chose d'un peu récurrent comme ça, qu'est-ce qui fait qu'il y a ça? Est-ce qu'on est vraiment prêt à la relation? Et Christelle le disait bien, d'y aller sans enjeu, dans la joie, etc. Si on y va avec je veux que ce soit l'homme, la femme de ma vie, déjà on arrive avec quelque chose qui peut être très très lourd pour l'autre, avec une énergie qui peut être extrêmement lourde. Donc d'y aller avec moins d'enjeux et de se dire je vais faire connaissance. Il y a aussi la question des gens qui sont des fois très tournés sur eux à se dire est-ce que je vais plaire, est-ce que je, et en fait c'est hyper narcissique d'être comme ça, et on se pose moins la question si on est trop tourné vers soi de cette façon-là, y compris tourné vers soi de façon négative, de est-ce que l'autre est la personne qui me convient.
Ah, alors là, d'abord, je préfère vraiment votre formule moins d'enjeux que pas d'enjeux, parce que je ne crois pas qu'il ne puisse pas y avoir d'enjeux.
Bien sûr, bien sûr.
Mais là, il y a le côté aussi sérieux. Le français, souvent, est sérieux. La française est sérieuse. D'ailleurs, dans les études, au début des histoires d'amour, quand on demande à une femme quel est le critère numéro un qu'elle cherche chez un homme, surtout au début des histoires d'amour, je veux dire des amours plus jeunes. Je parle pas quand on a 10 tours de piste, mais quoique encore. Mais elle cherche pas un homme forcément qui soit joyeux, qui ait de l'humour, qui ait de la culture. Non, elle
Pourtant,
faut qu'il
l'humour,
soit...
c'est la première réponse.
Oui, mais la number one, c'est sérieux. Christelle, vous regarderez à nouveau les études.
Quand elle dit sérieux, c'est sérieux dans le sens qui veut construire quelque
chose. Oui, mais
fiable,
c'est sérieux.
Fiable.
C'est sérieux. Ils veulent quelqu'un de sérieux. Or, qui dit sérieux dit enjeu. Or, l'amour, il y a un enjeu de l'amour, mais aussi, et ça Brigitte le dit souvent, et je suis en total accord avec elle, l'amour c'est aussi un jeu. Donc jouer. Alors pas au sens d'être fake. Vous méprenez pas, chers auditeurs. On ne dit pas de jeu au sens tricheur, tricheuse. Non, jouer. La vie, c'est un game. Jouer. Irène fait du théâtre. C'est jouer.
Oui, qu'il y a un espace de créativité.
Oui,
c'est,
créer,
c'est vraiment
jouer.
Cette question-là aussi, c'est d'être ouvert. Si je parle de jeu en termes de théâtre, si on prend cette métaphore-là, il y a vraiment cette notion d'une, quand on joue au théâtre avec le partenaire, c'est d'être présent à l'autre et d'écouter véritablement l'autre. Le jeu, il est là. Il est là et d'être aussi à l'affût de la réaction de l'autre et pouvoir répondre à la réaction de l'autre. Le jeu au théâtre, c'est ça. Et dans une histoire d'amour, c'est un petit peu la même chose.
Christelle.
Et c'est aussi d'accueillir l'autre. dans ces différences. Et comme au théâtre, hein, en théâtre d'impro, parce que je fais aussi du théâtre d'impro, on accueille ce que nous propose l'autre. Donc dans un premier rendez-vous,
tu n'as pas le droit de dire non.
Tout à
tu
fait,
dois
ouais,
prendre, l'autre tu te dit tiens, voilà la fait. Soupe, tu dois tout dire, bon bah il m'a dit que c'est la soupe, ouais, je prends, ouais. C'est la soupe.
Exactement.
Et si tu dis non, t'as l'arbitre, il te met un carton jaune.
C'est ça, et en amour, dans les premiers rendez-vous, c'est la même chose, c'est-à-dire je n'ai pas à vouloir qu'il soit autre chose. Et d'ailleurs, c'est un peu rigolo, mais ça me fait penser à plusieurs clientes comme ça, qui allaient en premier rendez-vous et qui attendent quelque chose de très particulier, même physiquement. Et donc, elles arrivent au rendez-vous, bon, il est un petit peu moins bien que ce qu'elles auraient cru, et là, elles font la gueule tout le long du rendez-vous, par exemple. Alors qu'en réalité, c'est quand même important, déjà, on est des êtres humains, on est des êtres de lien, la personne, elle s'est déplacée, elle est venue, et puis, on peut se permettre de faire connaissance avec l'autre, même si après, ça débouche pas sur une histoire amoureuse. Peut-être qu'on va passer un super moment, peut-être que l'autre, il est hyper sympa, peut-être que ça va être un ami, peut-être que son frère sera célibataire et qu'un jour, il nous le présentera. Donc, vraiment, y aller avec joie. C'est en ça que je dis qu'il faut y aller avec joie, parce que faire la tête parce que, oh mince, finalement, il a un enfant, ou, oh mince, il est moins beau que ce que je pensais, ou zut, il fait tel métier, c'est pas ce que je voulais, non. Enfin,
Irène Cazenave.
Effectivement, il y a vraiment cette question d'être dans l'accueil de l'autre et d'être aussi au clair avec ce dont on a besoin. On n'a pas besoin fondamentalement que l'autre fasse tel ou tel métier. On a besoin aussi d'avoir une relation qui soit constructive. C'est, je pense, d'être vraiment au clair avec ses besoins et de pas faire porter à l'autre, mais c'est la même chose dans le couple ou avec les enfants, de pas imposer un métier non plus à ses enfants, de projeter sur l'autre certaines choses. Il y a vraiment cette question de projeter le moins possible sur l'autre pour être le plus possible dans l'accueil et dans la découverte et dans l'amour.
Après, c'est compliqué. On va passer une page musicale et on va revenir sur cette question-là. On conclura là-dessus parce qu'on est sur un sujet très profond.
Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler, comment lui faire lire au fond de mes pensées. Comment font ces autres à qui tout réussit? Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. J'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps, mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. J'ai du sang dans mes songes, un pétale séché. Des larmes me rongent que d'autres ont versé. La vie n'est pas étanche, mon lit sous le vent. Les portes laissent entrer les cris, même en fermant. Dans un jardin d'enfants, sur un balcon des fleurs, la vie paisible où chantons battre tous les cœurs. Quand les nuages foncent, présage des malheurs, quelles armes répondent au pays de nos peurs. Qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer.
choses et tout recommencer. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve un monde. S'il suffisait d'aimer.
S'il suffisait qu'on s'aime, ça va nous permettre d'envoyer de l'amour à une dame qui en a bien besoin en ce moment, notre chère Céline Dion. Mesdames, on est bientôt, ça passe vite, hein. Le temps passe vite quand on s'aime, à la fin de l'émission sur la gestion des conflits. Alors si on devait faire, allez, deux, trois petits encore tips, deux, trois petits conseils à nos auditeurs sur la gestion des conflits en amour pour être un couple heureux et durable, que vous diriez quoi, Christelle ouais. Verfaillie?
Alors premier conseil, communiquer et communiquer dans une ambiance apaisée, c'est-à-dire préparez-vous carrément une soirée avec un dîner aux chandelles ou alors mettez des petites bougies, allumez la cheminée, mais préparez le terrain pour que la communication elle soit agréable. Faites-le dans un calme vraiment posé. Et puis surtout, deuxième conseil, écoutez l'autre sans vouloir contre-attaquer, hein, écoutez non pas pour répondre mais pour comprendre. Troisième chose, exprimez vos besoins profonds. Et puis, quatrième chose, trouvez des solutions ensemble. Vous arriverez à trouver des solutions à partir du moment où vous ne souhaitez pas changer l'autre. Si vous souhaitez changer l'autre, c'est voué à l'échec. On ne change personne.
Irène Cazenave, deux, trois petits coaching, conseils.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais rebondir sur ce qu'a dit Christelle. Il y a vraiment cette notion de se souvenir aussi de ce qui a fait qu'on a flashé sur l'autre, du mythe fondateur du couple. Qu'est-ce qui au début nous a plu chez l'autre? Et de pouvoir aussi être réveiller à un moment cette flamme-là, cette flamme du début, ce qui fait que ce qu'on aime chez l'autre, si parfois on lui reproche certaines choses, c'est aussi de regarder ce qui nous plaît chez l'autre et de s'appuyer aussi sur les forces du couple.
C'est très beau, mesdames et messieurs. Merci, Christelle Verfaillie. Vous merci. Reviendrez, Christelle. Hein.
Merci.
Alors, si
invitation.
On veut vous trouver, merci. On vous trouve vous, Christelle.
Alors, j'ai évidemment mon site internet, Dame de Cœur Coaching. Dame de Cœur avec le chiffre 2 entre Dame et Cœur.
Point.
Oui,
.fr. Et je crois que vous avez aussi un podcast.
J'ai un podcast, effectivement, qui s'appelle L'amour est partout.
On
qu'on
va écouter
retrouve
ça.
Sur toutes les plateformes
on va écouter
d'écoute,
ça.
Hein, Deezer, Spotify, ouais. Apple Podcasts, etc.
Et qu'est-ce qu'il y a dans ce podcast?
J'interview des personnes pour qu'elles nous racontent leur rencontre amoureuse. Pour qu'elle nous fasse rêver un peu et surtout qu'on s'aperçoive que l'amour est partout. Et puis, il y a certains podcasts qui sont des clés affectives que je transmets afin d'avoir un amour épanoui.
On va écouter ça. Et puis, en conclusion, moi qui aime tellement le théâtre, qui ai voué 11 ans de ma vie à ce théâtre, on va finir par quelque chose que j'ai adoré. Un grand acteur le disait, et vous reconnaîtrez toutes et tous. Adieu Camille, retourne à ton couvent. Mais lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné l'esprit, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, faux, bavards, hypocrites, orgueilleuses ou lâches, méprisables et sensuelles. Et toutes les femmes sont perfides, artificieuses, curieuses, vicieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si méchants. On est souvent trompé en amour, souvent blessé, souvent malheureux, mais on aime. Et lorsqu'on est sur le bord de sa tombe, qu'on se retourne, qu'on regarde en arrière, on se dit « j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice pas créé par mon orgueil ». Et mon ennui, c'était Musset dans On ne badine pas avec l'amour. On vous embrasse fort. On vous dit, Irène et moi, à la semaine prochaine. Merci Christelle.
Merci à tous.
Merci à Julien pour la réalisation sans qui cette émission n'aurait pas pu avoir lieu. Et sachez bien que ces mots que je viens de dire, c'est une femme qui les avait écrites. Ça va faire plaisir à Irène, car c'était Georges Sand dans une lettre à Musset. Mais Musset l'a mis dans la bouche de Perdican. À la semaine prochaine.
Au revoir.
Vivre heureux, vivons coachés. Une émission produite et réalisée par Christophe Médicis.